Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir. Toucher. Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
La Birmanie est un pays fascinant qui s'ouvre sur le monde et le tourisme. Lors d'un séjour au lac Inle, j'ai rencontré Martin, un chercheur français qui vit là depuis 2 ans pour étudier et mieux comprendre l'impact de la mondialisation sur le lac Inle et sa région. Dans cette deuxième partie de l'émission, Martin partage avec nous son quotidien qui n'a rien à voir avec celui d'un voyageur classique.
Toi qui es là maintenant depuis 1 an et demi, qui parle la langue, qui gratte un petit peu pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, ta présence doit déranger.
C'est rigolo parce que il y a pas mal de gens en fait qui comprennent pas forcément ce que je viens faire ici, parce que ici globalement on est habitué aux managers d'hôtel ou aux gens d'ONG, voilà, c'est tout. Et quelqu'un qui fait de la recherche et qui pose des questions, effectivement, on se demande ce qu'il vient fabriquer ici. Et donc, tu me faisais remarquer que même les Français ont un petit peu du mal à comprendre ce que je fais ici. J'ai entendu assez récemment qu'il y a des gens ici, à Niangshui, qui ne croient pas, en fait, en la théorie qui voudrait que je sois un étudiant français. Il y a des gens qui croient dur comme fer que je suis un agent secret qui travaille pour les services français, que mon statut d'étudiant n'est qu'une couverture. Alors que... Bon, je pense qu'il y a quand même plus efficace comme couverture que quelqu'un qui vient poser des dizaines et des dizaines de questions. Mais pour répondre à ta question, il est vrai que ma présence ici soulève quelques sourcils. Dans une culture birmane qui est quand même encore traumatisée par la junte militaire, quelqu'un qui vient poser des questions se demande toujours qui c'est.
Ce que tu fais aujourd'hui, c'était encore pas possible il y a 5 ans en arrière, venir là et faire une étude de terrain, poser des questions à tout le monde. Les gens se mettaient en danger à répondre à tes questions.
Oui, tout à fait. Je suis bien conscient que je suis l'un des bénéficiaires de l'ouverture du pays, de l'ouverture du régime. Si tu questionnes les autres chercheurs sur la Birmanie qui sont là depuis des années, il y a encore 5 ou 6 ans, c'était la croix et la bannière pour obtenir un visa, obtenir le droit de loger quelque part, de se déplacer dans le pays. Il fallait demander des autorisations sans arrêt, on était plus ou moins suivis. Moi, j'avoue que je profite largement de l'ouverture du pays. Donc, quand tu dis que ma présence dérange ici, effectivement, on me demande assez régulièrement, mais tu poses des questions, mais c'est pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire de ces informations, quel sera le devenir de ces informations. Mais on n'est jamais venu m'embêter sur des questions de visa, des questions d'immigration, on m'a jamais suivi, on n'a jamais essayé de m'intimider d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une autre caractéristique qui surprend pas mal d'observateurs, c'est la rapidité de la transition démocratique birmane. C'est-à-dire que quasiment du jour au lendemain, les gens ont retrouvé une certaine liberté d'expression, ils ont osé parler avec des étrangers, alors qu'avant c'était très vivement découragé. Donc ça, c'est un contexte qui m'aide énormément. Je peux mener mes recherches en me basant que sur des entretiens, quasiment, en toute liberté. Ça, j'apprécie beaucoup.
C'est vrai que je connais pas du tout ce métier de chercheur. Qu'est-ce que c'est être chercheur, faire des recherches? Quelle est la finalité? Je te la pose aussi, moi, cette question. Ça va servir à quoi? Quelle va être la suite?
Pour moi, être chercheur, et surtout en géographie, je m'exprime surtout pour ma discipline, qui est la géographie, et puis surtout la géographie humaine, c'est arriver à comprendre une région, comprendre un territoire, en mettre un petit peu à jour les mécanismes, les ficelles, les grands acteurs, les grands réseaux. Voilà, comment fonctionne cette machine qu'on appelle région du lac Inle? Quels sont les acteurs qui font tourner cette machine? Quand je terminerai cette thèse, dans un an et demi, j'espère que j'aurai trouvé un petit peu les clés pour comprendre cette région et les grandes dynamiques qui sont à l'œuvre. Ensuite, si on va encore un peu plus loin, à quoi va servir ma recherche? C'est là la question que se pose, à mon avis, beaucoup de thésards. Moi, j'ai la ferme intention de mettre ma thèse en ligne sur Internet, sur les sites gratuits qui sont dédiés à ça. J'ai déjà fait pareil pour mon Master 2. Il a été vu, je crois, plus de 1000 fois déjà, ce qui est pas mal. Ma thèse, j'ai envie aussi de la traduire en anglais, en imprimer quelques exemplaires pour les acteurs de la région qui m'ont exprimé leur intérêt. Si possible aussi, pourquoi pas essayer de la faire traduire en birman, ce qui là prend encore un peu plus de temps et encore un peu d'argent, mais je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Les Birmans sont quand même les premiers concernés par les dynamiques du lac Inlay, donc ce serait quand même un peu injuste de les maintenir hors de la maigre connaissance que j'aurais pu constituer lors de mon séjour sur place. Si par hasard les décideurs veulent bien jeter un coup d'œil à ma thèse, la feuilleter avant de la reposer sur un coin de bureau, tant mieux.
Auront peut-être quelques clés pour pouvoir apporter un mieux-être réel aux populations ?
Oui, effectivement. J'espère pouvoir leur apporter quelques clés, même si je sais que je ne suis pas le seul à travailler sur la région. Il y a aussi un certain nombre d'ONG qui sont présentes ici, avec des consultants très compétents qui font de bons rapports assez solides sur la région. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées sur la région du lac Inlay désormais, et il y a plusieurs rapports qui ont été rendus au gouvernement. Il y a par exemple un projet assez intéressant de plan en fait, pour gérer la destination du lac Inlay. Voilà, la destination du lac Inlay existe en tant que destination touristique. Comment est-ce qu'on peut la gérer au mieux de manière durable ? Donc comment est-ce que nous, acteurs de l'hôtellerie, de la restauration, guides touristiques, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour rendre le tourisme un peu plus vert, un peu plus respectueux de l'environnement et des gens ? Donc voilà, il y a un bon projet qui a été fait, monté par une ONG internationale. Ce projet est très bien, il est détaillé, il y a tous les plans d'action, tous les schémas d'action, il y a un calendrier, un échéancier, tout est prêt, il manque plus que l'argent. Et là, c'est le problème. Pour financer un plan à 15 millions de dollars, le gouvernement n'a pas les moyens. Donc le gouvernement est très content d'accueillir des chercheurs étrangers qui peuvent travailler sur la région. Mais ensuite, ils tendent directement les rapports, les comptes rendus, les tendent directement aux débailleurs de fonds en disant bah, « voilà, est-ce que vous pouvez nous financer ça ?»
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre.
Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
Je vais revenir à la population locale. Tu me parlais du lac qui est de plus en plus pollué pour différentes raisons. Le trafic sur le lac en pirogue, les pesticides qui sont utilisés pour les plantations. Est-ce que les habitants ont cette conscience écologique ? Est-ce qu'ils ont envie de préserver le lac qui est finalement une ressource qui leur permet de vivre ? Est-ce qu'il y a cette vision durable à long terme de s'occuper de la nature et de la préserver ?
Alors, les habitants du lac sont très conscients de la dégradation de l'environnement. Pour la bonne et simple raison qu'ils en sont les victimes au quotidien. J'ai visité des villages dans lesquels la sédimentation allait à une telle vitesse que la jetée pour bateau a dû être déplacée d'un kilomètre et demi au cours des 5 dernières années, parce que le village était en train de se sédimenter à toute allure. Les jardins flottants de tomates ont été transformés d'abord en rizières, et puis ensuite il n'y a même plus assez d'eau pour cultiver du riz, du coup maintenant c'est des champs de maïs. Donc les gens en sont bien conscients. Le problème, c'est qu'ils sont dans une situation économique qui fait qu'ils n'ont pas forcément trop le choix. Les pêcheurs, qui sont vraiment les plus modestes des plus modestes, s'ils veulent continuer à nourrir leur famille, ils sont obligés de pêcher leurs 5-6 kilos de poissons quotidiens pour nourrir leur famille. Les cultivateurs de tomates, depuis une petite dizaine d'années, ils remarquent la concurrence d'autres régions de Birmanie qui se mettent à produire de la tomate. Donc avant, bien évidemment, il y avait d'autres régions de Birmanie qui produisaient la tomate, mais que de manière très saisonnière. Maintenant, notamment le long du fleuve Irrawaddy, il y a de plus en plus de cultures irriguées toute l'année. Et donc ça produit une concurrence, une chute des cours de la tomate, ce qui est bien pour le consommateur final, mais pour les producteurs de tomates, c'est une catastrophe. Et donc, face à cette situation-là, s'ils veulent, encore une fois, conserver leurs revenus, ils sont obligés de produire plus, ce qui en fait ne fait qu'aggraver le problème. Et donc, ils sont obligés d'acheter des semences encore plus productives, d'acheter encore plus d'engrais, d'acheter plus de pesticides, etc. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux.
On a parlé de la pêche, on a parlé de l'agriculture, on a parlé du tourisme. Quelles sont les autres ressources économiques ici des habitants ?
Alors oui, c'est vrai que c'est l'une des autres activités du lac, c'est l'artisanat qui est extrêmement présent. Il y a des villages qui sont vraiment spécialisés dans l'artisanat. Donc dans le village d'Iwama, ils sont plutôt spécialisés dans la bijouterie, la joaillerie en argent. Dans le village de Nimpin, ils sont plutôt spécialisés dans la fabrication de cigares birmans, cigares traditionnels. Et puis dans le village d'Impokon, ils sont plutôt spécialisés dans le textile. Donc tissage du coton, tissage de la soie et puis tissage de ce fameux lotus. On prend des longues tiges de lotus qu'on casse tous les 2 ou 3 cm et puis on tire les deux extrémités de la tige là, qu'on vient de casser. Et puis on tire une espèce de fil de résine en fait. Ce n'est pas tout à fait de la fibre, c'est la sève de lotus qu'on étire. Puis petit à petit, en raboutant en fait tous ces petits tronçons de résine, on arrive à faire un fil qu'on tisse ensuite, qui fait des écharpes et des étoles qui se vendent très très bien.
Ça, tu as étudié l'origine de cette technique, parce que c'est vrai qu'elle est unique, la kinlé. Je crois que maintenant on la développe aussi au Cambodge, au lac Tonlé Sap.
La légende veut que c'était inventé au sud du lac Kinlé, dans un petit village du sud du lac Kinlé, à la fin du 19e siècle. Une dame qui aurait utilisé la résine de lotus pour faire en fait une toge de moine. Et en fait, pendant un siècle quasiment, la fibre de lotus n'a existé que de manière très confidentielle, de manière non commerciale d'ailleurs. C'était vraiment chaque famille qui fabriquait une étole ou une toge de moine en lotus, et c'était réservé aux donations religieuses. Parce que le lotus a une signification particulière dans la religion bouddhiste. Et donc jusqu'aux années 90, cette fabrication de textiles à base de résine de lotus, c'était extrêmement anecdotique et non commercial, à destination des touristes, au milieu des années 90. 1996, c'est vraiment la date de naissance du vrai tourisme un peu massif dans la région.
La religion, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Quelle est la place de la religion sur le lac ?
La religion est omniprésente dans la vie, dans le quotidien des gens d'ici. Ça rythme l'espace, les pagodes rythment les paysages. Il y a aussi une scansion du temps en fonction du calendrier religieux. Donc par exemple, une chose toute simple, il n'y a pas de dimanche ici. Les gens travaillent 7 jours sur 7, sauf les jours de pleine lune, donc le calendrier lunaire marque le temps, et le jour de pleine lune, c'est un jour sacré du point de vue religieux. Donc on ferme le magasin, on va à la pagode, on fait des offrandes, on fait des offrandes aux moines, etc.
Beaucoup de donations sont faites dans les monastères et dans les temples. Tu t'es intéressé à l'argent généré par le tourisme, mais les donations, comment est-ce qu'elles sont réparties ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on sait un monastère, comment il va utiliser l'argent des fidèles ?
C'est un sujet sur lequel j'en ai fait un peu enquêté. Je me suis donc rendu à cette fameuse pagode Pandou, qui est la plus célèbre de la région, et j'ai demandé à voir les livres de compte. Et donc, le comptable de la pagode qui me dit « Mais bien sûr, tenez, il me sort les livres de compte. » Mais en fait, il m'est apparu qu'une pagode ne fait que recevoir de l'argent et n'en dépense que très peu. parce que la nourriture des moines, elle est donnée par les fidèles tous les matins. Les robes de moine, tous les accessoires du moine sont aussi donnés par les fidèles. Quand il faut rénover la pagode, redorer telle ou telle flèche de la pagode, il arrive très souvent que on crée une souscription spéciale pour ça. Donc au bord des routes, on va voir plein de jeunes filles en général, de 10 à 16 ans, qui secouent des bols argentés, là, qui sont des bols à offrande. Et donc les fidèles qui passent en voiture, en moto, vont jeter un billet pour contribuer à ce projet de réfection de la pagode. Mais assez rarement, quand même, les pagodes vont piocher dans leurs réserves propres. Donc j'avais été un peu étonné de voir finalement que les finances de ma pagode Pandohou enflaient à n'en plus finir en fait. Alors si on se penche vraiment plus sur la question des finances du bouddhisme, on rentre dans des questions un peu moins reluisantes qu'il n'est peut-être pas forcément bon d'évoquer à la radio. Mais il y a un chercheur, un géographe, l'un des très rares géographes français qui a travaillé sur la Birmanie, qui connaît très bien la région, qui a passé quelque chose comme un an dans une pagode en Birmanie centrale. Et il s'intéressait à tout. Il a décortiqué toutes les donations, il a décortiqué le livre de comptes, il a interrogé des pèlerins, interrogé des moines, interrogé des marchands, etc. Et puis il a mis au jour plein de magouilles en fait, financières dans lesquelles était impliquée la pagode. Très concrètement, l'une des offrandes qu'on fait très souvent, dès qu'on a un peu les moyens, c'est offrir une robe de moine, avec les ustensiles qui vont avec, donc le bol à aumône, la natte, etc. Et en fait, il y a tout un marché des robes de moine. En dehors du monastère, tu as plusieurs commerces qui vendent des robes de moine, donc tu achètes ta robe de moine assez cher. On va la remettre au supérieur du monastère en échange d'une bénédiction, en échange d'un bon karma, etc. Tout le monde achète des robes pour les monastères à n'en plus finir. Donc les monastères se retrouvent avec des pièces entières pleines de robes de moines dont ils n'ont pas tant besoin que ça au final. Et donc en fait le monastère revend ensuite les robes de moines aux vendeurs de robes de moines.
On fait pareil avec les fleurs qu'on offre à Bouddha en Thaïlande. On va poser les fleurs devant Bouddha, on va les récupérer, on va les revendre aux marchands de fleurs, etc.
Ouais, voilà, tout à fait.
Mais il n'y a pas des projets sociaux. Tu parlais des ONG, il n'y a pas des liens entre, des projets de développement, les monastères qui, pour aider les communautés, vont reverser ou investir une partie du bénéfice des dons, des donations pour, une école ou créer quelque chose, une œuvre sociale.
Les monastères sont déjà en eux-mêmes des lieux de soutien social. C'est-à-dire que, globalement, on envoie au monastère le petit dernier qu'on n'a pas les moyens d'envoyer à l'école, parce que bien que l'école soit officiellement gratuite en Birmanie, officieusement, il y a quand même des coûts. Donc c'est déjà un lieu d'éducation, c'est aussi un lieu de soins pour les gens qui n'ont vraiment pas les moyens de se soigner. Le monastère fournit une certaine aide sanitaire qui est quand même assez symbolique. Ce n'est pas de la chirurgie à cœur ouvert, mais ils ont un certain rôle. Que je sache, je n'ai pas entendu parler de grands projets sociaux qui soient menés par des monastères du coin. Il y a un orphelinat dans le village de Maintao, qui est assez populaire, les touristes vont le visiter, font quelques donations, etc. Cet orphelinat a un certain arrière-fond religieux. Mais malgré tout, il y a quand même une déconnexion importante entre les revenus d'un monastère et puis la partie qui revient effectivement de manière très concrète aux donateurs. Ensuite, il y a un retour aux donateurs sous la forme d'un confort spirituel. Par exemple, à chaque fois que j'évoque les questions un peu de transparence des fonds monastiques et que je parle avec des birmans, je leur dis « mais ça ne vous gêne pas quand même que cet argent soit à peine dépensé, que cet argent il reste juste dans un compte en banque qui appartient à la pagode et que ça ne vous bénéficie pas vraiment ?» Ou « ça ne vous dérange pas que les robes de moines soient ensuite revendues ?» Ils me disent « ben non, puisque moi, ma part de responsabilité, elle cesse à partir du moment où la robe de moine quitte mes mains. » Donc moi, je fais le geste de faire une donation. Ensuite, ce qu'ils font avec mon argent, je ne veux pas vraiment savoir. Ça, mon retour de bon karma, je l'ai eu en faisant ma donation.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
L'émission radio pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Un autre sujet, tu parlais des ONG. Quelles sont-elles ? Quels sont les projets mis en place ici localement autour du lac Inlay ? Sur quoi ? Sur quel projet elles participent et elles s'impliquent ?
Il y a plusieurs gros acteurs dans la région. Donc il y a plusieurs gros projets, grosses machines qui sont gérées plutôt par les coopérations internationales. Donc les Norvégiens sont assez présents, les Allemands, par le biais de leur GIZ, sont très présents aussi. Donc eux, ils ont pas mal de moyens, ils payent des consultants qui viennent faire de bons rapports qui sont en général non financés. La GIZ a essayé de débloquer la situation en disant « bon, on va désormais payer pour mettre en place ce projet ». Le projet qui a terminé dans un très bon rapport, désormais, on va faire l'effort de le financer. Et là, je crois que ça fait un an et demi qu'ils essaient de mettre en place ce système de gestion durable de la destination touristique Inlay. Donc, essayer de mettre en place une meilleure gouvernance entre tous les acteurs, essayer de mettre en place des procédures environnementales, essayer de mettre en place un système de traitement des déchets, etc. Tout un processus d'information des touristes, de sensibilisation des habitants locaux, etc. Ça fait un an et demi que le projet est désormais en place, que la GIZ finance la mise en place de ce projet de gestion durable d'Inlay. Et globalement, pour l'instant, les acteurs qui sont responsables de ça, enfin les gens de la GIZ avec qui j'ai pu discuter, reconnaissent que les résultats sont quand même modestes. La GIZ dépense pas mal d'argent et beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, mais que les résultats sont très modestes parce que les mécanismes en fait, de gouvernance ne sont pas en place. On arrive d'une situation dictatoriale où le ministère décide de manière assez arbitraire de quelque chose et par quel rouage ensuite est-ce que ça arrive à la base, ça va être des rouages autoritaires et assez arbitraires. Et là, maintenant, essayer de mettre en place des vrais rouages démocratiques qui permettent de transmettre l'impulsion gouvernementale jusqu'à la base, jusqu'aux paysans, jusqu'aux pêcheurs, c'est extrêmement difficile et extrêmement long. Là, quand on travaille avec l'administration, les ministres et tout ça, on est assez désemparés de voir qu'ils ne parlent pas anglais, ils ont un niveau d'études plus que modeste. Là, tous les grands responsable du tourisme dans l'État Chan, c'est des anciens militaires. Le chef du tourisme dans l'État Chan, c'est un ancien militaire qui parle un anglais juste convenable, mais qui n'a pas vraiment de connaissance du tourisme en lui-même. Puis quand on descend un peu plus bas dans les échelons administratifs, c'est des gens qui ont des formations extrêmement sommaires. Les formations universitaires birmanes souffrent encore aujourd'hui d'un retard catastrophique. On arrive avec des appareils administratifs qui sont sous-performants, avec des effectifs pléthoriques mais non qualifiés. Donc dans ce contexte-là, c'est extrêmement difficile de créer quelque chose. Donc là, pour l'instant, la GIZ sera en train d'essuyer les plâtres de la coopération. Ensuite, il y a d'autres acteurs qui sont présents. La grande ONG qui est présente ici, elle s'appelle Inlay Speaks, donc Inlay Parle. C'est un projet qui a été fondé par des guides touristiques qui avaient une certaine conscience environnementale, qui sentaient que c'était le moment de se mobiliser. Donc ils ont fondé Inlay Speaks en 2011, si ma mémoire est bonne. Et assez rapidement, ils ont été épaulés par un gros tour opérateur suisse qui les a aidés, les a appuyés financièrement, etc. Et depuis peut-être 2 ans, je crois, ils sont financés par une grosse ONG norvégienne qui s'appelle Partnership for Change, Partenariat pour le Changement. Et là, ils ont pas mal de moyens, ils ont des consultants étrangers, le chef de Partnership for Change est un jeune Norvégien très compétent et très motivé, etc.
Mais ils font quoi, Inlay for Change ?
Inlay Speaks, ils ont pour vocation en fait, de chapeauter plusieurs petites organisations locales Donc c'est en fait le dernier niveau auquel je voulais parvenir, c'est tous ces petits groupements locaux, ces petits groupements de villageois qui essaient de mettre un peu d'argent de côté, qui replantent un petit peu des arbres sur les versants déboisés des collines, qui se mobilisent pour et avoir par exemple fiabiliser leur approvisionnement en eau dans les villages, mettre en place des systèmes de récupération d'eau de pluie, des systèmes d'agriculture un peu plus performants, essayer de promouvoir le compost au lieu des intrants chimiques, etc. Donc voilà, il y a plein de petits groupements qu'on appelle ici en Birmanie les CSO, Civil Society Organization, ouais. Et aussi les CBO, donc Community Based Organizations. Et donc voilà, il y a toute une myriade de petits acteurs qui ne demandent qu'à être coordonnés, à être un peu chapeautés, à être formés aussi. Et donc InLespeaks joue un rôle important pour former tous ces gens, donc former un petit peu à des rudiments d'informatique, les former à des rudiments d'anglais. Ils essaient aussi de créer toute une classe, tout un groupe de jeunes entrepreneurs un peu motivés et un petit peu formés. Donc par exemple, des guides touristiques un peu motivés, on va les prendre, on va améliorer leur anglais, on va leur donner des notions de... comment monter un petit commerce un peu responsable, comment agir de manière un peu plus ingénieuse en matière d'environnement, de responsabilité sociale, etc. Donc ils ont avant tout un rôle d'éducation, de formation, de sensibilisation.
Martin, pour finir, qu'est-ce que tu fais quand tu as fini ta thèse ? Donc tu vas encore rester là, je crois, une année, tu disais, et ensuite tu restes en Birmanie, tu ouvres un hôtel, tu crées une ONG ou tu rentres en France ? Quelle est la suite ?
Je me suis déjà essayé un petit peu au business ici. J'ai essayé de m'impliquer dans un hôtel, mais j'ai eu la preuve par A plus B que je n'étais pas fait pour le business. Ce qui m'attend après la thèse, ça sera probablement un petit peu de retour en France parce que j'ai des obligations. J'ai l'obligation d'enseigner un petit peu en France, donc je rentrerai un petit peu en France, mais il est clair que mon avenir à moyen terme, je le situe en Birmanie. Je pense qu'il y a tellement de potentiel en Birmanie, il y a tellement de choses à faire ici que je me verrais volontiers m'installer en Birmanie. Alors, pourquoi faire ? Soit j'essaie de m'impliquer dans des ONG, par exemple, qui ont besoin de consultants. J'ose imaginer que je pourrais me rendre utile auprès de ces ONG. Ou sinon, autre chose, mais qui me semble tout aussi important, ça serait m'impliquer dans le milieu universitaire birman. Tout simplement pour les besoins de ma thèse, je me suis penché dans des écrits académiques faits par des Birmans, des thèses de doctorat faits par des Birmans, et puis pas des jeunes loups, hein, des gens qui ont 35 ans, 40 ans, qui sont mûrs, qui ont 15 ans d'enseignement derrière eux et qui se jettent dans l'étape thèse. Et à vrai dire, quand je lis leur thèse, je suis un peu circonspect quand même. Il y a quand même un... Voilà, on sent que le système universitaire birman a été plombé par les années de la junte et que, globalement, toute notion d'esprit critique, de réflexion par soi-même, de construction d'une réflexion, d'analyse d'une situation, ça, c'est quelque chose qui est absolument absent des thèses que j'ai pu lire jusqu'à présent. Même une thèse qui a été soutenue en 2015, quand je l'ai feuilletée, j'étais un peu déçu. Et donc là, dans 10 jours, je vais faire mes grands débuts, entre guillemets, à l'université de Tangi pour donner des cours de méthodologie de la recherche. Ça, c'est l'intitulé officiel, mais l'intitulé officieux, ça serait « Formation à l'esprit critique ». Donc j'aurai devant moi une petite promotion d'étudiants birmans et j'aurai quelques créneaux horaires pour leur expliquer, voilà, comment construire une réflexion critique, comment essayer de penser par soi-même. Et là, il y a du travail à faire. Et je pense que c'est critique. C'est très important. Si on veut former la jeunesse birmane, si on veut lui donner les clés de construire ce pays par eux-mêmes, tout réside dans l'éducation de l'école primaire jusqu'à l'université. Donc voilà, mon avenir, je le vois plutôt en Birmanie, j'aime ce pays, j'ai quelqu'un ici, donc je me vois vraiment rester ici sur les années à venir.
Merci Martin.
Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.